tout dans l'Écriture est idéal. Mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, avec qui je suis si heureux et si reconnaissant de pouvoir recevoir la chair et le sang de notre Sauveur, cette chair qui est réellement une nourriture et ce sang qui est réellement un breuvage pour qu'il les reçoit avec foi par le Saint-Esprit, il y a dans l'Écriture un trait qui suffirait à lui seul pour la faire connaître pour la parole de Dieu. C'est que tout y est idéal. Il n'y a rien dans l'Écriture que d'absolu et de parfait. Elle ne songe jamais à nous appeler à une certaine mesure de sainteté, par une certaine mesure de foi, et toute mesure est contraire à l'instinct de la Bible, parce qu'elle est contraire à Dieu. L'idéal de l'Écriture n'est pas comme celui des poètes qui prennent les choses de la terre pour les élever au troisième ciel. Elle fait l'inverse. Pour elle, les choses visibles ne sont que des types des invisibles, seules réelles. Et c'est au point de vue de Dieu qu'elle considère toutes choses. C'est une remarque qui m'a frappé ce matin en réfléchissant devant le Seigneur à ce que je pourrais vous dire au sujet de la communion et de la croix de Jésus-Christ, dans laquelle seule nous trouvons la rémission des péchés. L'Écriture nous présente partout le péché idéal. Il n'y a pas un de nous qui se fasse une idée de l'horreur et du crime du péché devant Dieu. Et nous avons toujours vécu dans une atmosphère tellement saturée de péché, sur cette terre qui boit l'iniquité comme l'eau et la mange comme le pain, que nous ne savons plus discerner ce péché qui nous enveloppe de toutes parts. Voici en deux mots l'expérience que j'ai faite. Nous trouvons dans la Bible ces paroles. Nous étions autrefois insensés, rebelles, égarés, asservis à diverses convoitises et voluptés, vivant dans la malice et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Pendant longtemps, il m'a été impossible d'admettre cette déclaration qui me paraissait empreinte d'une exagération manifeste. J'avoue que, même après que Dieu, par sa grâce, eût tourné vers lui mon cœur au jour qu'il avait marqué dès les temps éternels, je suis resté longtemps encore sans pouvoir l'accepter complètement. Il y a plus. J'avoue que depuis lors, aujourd'hui même, je ne puis pas la comprendre dans sa plénitude. Non pas que je ne sois convaincu qu'elle est parfaitement vraie, et que si je ne la réalise pas dans mon expérience, la faute en est toute à moi. C'est là que j'ai compris la nécessité d'un témoignage existant avant, en dehors et au-dessus de nous. J'accepte cette déclaration comme venant de Dieu parce que je la trouve dans sa parole, et je le prie d'achever de m'en révéler le sens par son esprit. Je suis arrivé, par la grâce de Dieu, non d'année en année, les choses ne vont pas si vite, mais d'un intervalle de plusieurs années à un autre intervalle de plusieurs années, à voir cette doctrine plus clairement et à en sentir de plus en plus la vérité dans mon propre cœur. Et je suis sûr que quand ce voile de chair sera tombé, je reconnaîtrai que c'est la peinture la plus fidèle et le portrait le plus ressemblant qui ait jamais été tracé de mon cœur, j'entends de mon cœur naturel. Demandons à Dieu de nous révéler notre état de péché, sans pour autant le trop presser, parce qu'il sait bien que s'il nous faisait croître plus vite dans cette connaissance que dans celle de sa miséricorde, nous tomberions dans le désespoir. Mais le pardon nous est aussi partout représenté dans l'Écriture comme idéal. Si une partie seulement de nos péchés était pardonnée, si sur 1000 péchés ou 1 million de péchés, si on pouvait compter nos péchés, il en restait un seul qui ne le fût pas, ce pardon ne nous servirait de rien, mais c'est un pardon complet. Le passage que l'on vous citait tout à l'heure, en 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 21, est un de mes passages favoris. Jésus-Christ n'a pas seulement expié quelques péchés, il a expié le péché. Il n'a pas été considéré comme pécheur, il a été fait le péché même. Et par le mystère des mystères, toute la malédiction de Dieu a été rassemblée sur cette tête innocente et sainte. Aussi, nous ne sommes pas seulement rendus justes en lui, mais la justice même. En sorte que, quand Dieu nous contemple en Jésus-Christ, il nous voit comme son Fils bien-aimé lui-même et trouve en nous tout ce qui peut attirer ses regards et sa complaisance. Nous qui croyons, nous avons été donnés de Dieu à Jésus-Christ pour prix de son sacrifice. Il ne peut pas plus nous manquer de parole qu'à Jésus-Christ lui-même, et toutes ses perfections y sont tellement engagées que ce don de sa miséricorde infinie devient comme un droit de notre justice parfaite en Jésus-Christ. Les termes mêmes employés par l'Écriture, en nous montrant ce qu'est le péché devant Dieu, nous montrent comment il les a effacés. Il les a jetés derrière son dos, comme s'il avait peur de les revoir, précipités au fond de la mer, dissipés comme un nuage, anéantis comme une nuée. Nous voyons par là ce que c'est pour Dieu que d'oublier le péché. Le Seigneur nous est représenté comme faisant effort pour oublier, ou plutôt, ce n'est pas oubli, c'est un effacement complet. Enfin, l'Écriture est idéale dans ce qu'elle nous dit de la sanctification. Nous ne nous faisons aucune idée de ce que l'Écriture demande de nous et du degré de sainteté auquel nous pouvons et devons atteindre. Quelle plénitude dans cette parole! Le Dieu de paix veuille vous sanctifier lui-même parfaitement, afin que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour nous prouver que ce n'est pas un simple vœu, l'apôtre ajoute tout aussitôt « Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est pourquoi il le fera ». Il n'est pas plus possible qu'il nous refuse cette grâce qu'il ne l'est de le concevoir rompant avec sa parole. Et comment pouvons-nous arriver à cette sainteté? Comment ont été grands les saints hommes dont la Bible nous montre l'exemple? Ce n'est pas par leur lumière, ni par leur don naturel, mais par leur foi. Voyez saint Jacques, pour nous montrer la puissance de la foi et de la prière, il prend l'homme le plus miraculeux peut-être de la Bible, dans le plus miraculeux de ses miracles. Il nous présente la hardiesse de cette prière d'Élie comme une chose toute simple et le propose un exemple au plus petit, au plus humble, pour nous montrer ce que peut la prière persévérante, littéralement la prière énergumène du juste. Si nous pouvions, chacun de nous, sentir dès aujourd'hui, dans notre cœur, l'énormité du péché, la plénitude du pardon et la puissance de sainteté à laquelle nous devons atteindre, quel changement dans notre vie, quelle influence salutaire pour l'Église elle-même. Prière. Ô Dieu, toi qui sais tout ce que le péché a amené de maux et de souffrances sur notre pauvre terre et dans cette pauvre humanité, toi qui vois tout ce qui se souffre en ce moment même et dont nous ne pourrions pas supporter la vue, nous te recommandons tous ces affligés pour que tu répandes sur eux les trésors de ta grâce et de ta consolation. Nous ne pouvons pas te les nommer tous, mais tu te les nommes à toi-même. Nous te recommandons les victimes de la guerre, tant de familles plongées dans le deuil et tant d'autres qui vivent dans une inquiétude continuelle. Nous te recommandons les opprimés et les persécutés pour la justice. Nous te recommandons les esclaves. Considère ces milliers, ces millions d'esclaves opprimés par des hommes qui professent ton nom, par des serviteurs de Christ qui ne sont pas serviteurs. Nous te recommandons les pauvres. Ah, les pauvres, les malades qui sont pauvres. Nous te recommandons tous ceux qui te connaissent pour que tu les soutiennes et que tu répandes sur eux ta paix et tes consolations. Et quant à ceux qui ne te connaissent pas, nous les recommandons à ta grâce, afin que tu te révèles à eux, car ils n'ont pas d'autre alternative que le désespoir s'ils ne te possèdent pas. Pour moi, qui souffre un peu, je confesse Christ et sa paix. Je te rends grâce de la joie que tu répands dans mon âme. Tu nous appelleras peut-être à nous séparer pour un peu de temps, mais qu'est-ce que cela? Nous savons que par ta grâce, nous serons tous un jour réunis auprès de toi.